Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le petit plateau pour un nouvel épisode débriefing. Et cette fois-ci, on se retrouve pour tirer les conclusions de ce Giro, les conclusions finales. Si, on va y arriver, on va trouver les conclusions à ce Giro. Et pour ça, il faut la recette magique. Deux fans absolus de cyclisme qui aiment beaucoup parler. Ça tombe bien, j'ai Damien et Romain avec moi. Bonsoir, messieurs.
Salut,
Salut
salut.
Alexis, salut Romain, salut tout le monde. Alors bon, vous le savez, on en a beaucoup parlé entre nous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu aussi peu de temps pour regarder une course cycliste. Donc pour les gens qui, comme moi, ont manqué beaucoup de kilomètres de ce Giro, est-ce que vous pouvez commencer par le résumer en un mot?
C'est pas vraiment un résumé, mais moi, si je devais dire un mot qui caractérise ce Giro, ce serait inégal. Inégal surtout par le spectacle qu'il a proposé. Je trouve que c'était parti très très fort. J'adorais ce Giro. Et au fur et à mesure que les jours arrivaient, ça déclinait. Alors il y a eu des petites remontées de temps en temps, des petits sursauts d'intérêt. Mais globalement, il était temps que ça se termine, je vais le dire comme ça. J'y prenais plus beaucoup de plaisir en tout cas.
Oui, je vais partir vers un autre angle, je dirais ultra domination, tout simplement. Je pense que tout le monde voit pourquoi, évidemment, j'ai choisi ce mot-là.
Ok, ultra domination, pas pour les sprinteurs, quoique, hein, j'ai quand même eu l'occasion de voir cette dernière étape où Merlire a essayé un petit peu reproduit sa victoire à la Nokere course. C'est-à-dire qu'il a accéléré avant les pavés. On sait que c'est plus facile de maintenir sa vitesse sur les pavés que d'accélérer sur les pavés. C'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans le match Milan contre Merlire. Justement, on avait beaucoup parlé des sprinteurs ce Giro avant dans l'épisode preview. Au final, le résultat n'est pas forcément inattendu, mais il est sans appel. 3 Merlire, 3 Milan, et pour le reste des miettes, une étape pour Coy, rien pour les autres. Donc voilà, je sais que tout est cyclique en cyclisme, hein, ça change tout le temps, mais on aime quand même bien faire des tops, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Damien, tu disais avant le Giro, Merlire, meilleur sprinteur du monde. On entend souvent depuis un an Philipson, meilleur sprinteur du monde. Est-ce que là maintenant, après ce Giro, on ne peut pas ajouter Milan dans ce top 3?
Moi, je vais griller la politesse à Romain, parce que Romain avait dit, bah, toujours quand même, sur notre premier épisode qu'on a fait en duo, Romain avait dit, bah, quand même, toujours, Merlire, c'est quand même, deuxième épisode, bon, il m'avait rejoint sur Milan, je disais Milan, 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 bah, peut-être que je change d'avis et que je vais retourner sur Merlire, finalement. Mais Milan, de toute façon, oui, fait partie maintenant des candidats au titre de meilleur sprinteur du monde. On attendra de voir Philipsen, mais moi, je disais Merlire. Milan a rivalisé très clairement, voire peut-être même mieux que rivaliser avec Merlire. Donc voilà, ces deux-là, fatalement, je les mets tout en haut. Et Philipsen, vu ce qu'il a montré l'année passée, ne peut pas non plus être tombé bien, bien bas. Donc, je pense qu'on a un nouveau top 3. En dehors du top, je profite juste un petit mot sur le sprint. On se réjouissait tous. On avait dit, waouh, quelle stack liste de sprinteurs! Ben moi, je peux pas m'empêcher d'être déçu d'avoir quand même deux mecs qui ont survolé les débats à ce point-là. Finalement, les autres n'ont pas existé. Et bon, Coy, effectivement, les miettes, sur un sprint un peu particulier où je suis pas sûr en fait que Coy en aurait regagné d'autres. Donc, un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de matchs quand même.
Ouais, et je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment eu match parce qu'il y a quand même eu très peu de sprints où et Merlire et Milan étaient à 100%. Les deux derniers sprints massifs vont dans l'escarcelle de Merlire et à chaque fois c'est parce qu'il y a un petit stut entre guillemets avec Milan enfermé sur le premier, un problème de vélo à 8 km du but qui l'oblige à une remontée folle donc. Voilà, c'est à voir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là qu'on n'a pas, auquel on n'a finalement pas assisté, je trouve.
Et malgré la présence je sais que ça va faire plaisir à Alexis, c'est pour ça que je le dis, malgré la présence de Caleb Ewan et Fabio Jakobsen au départ.
Oui, clairement. Est-ce que, ben voilà, je comptais en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que là, c'est bon, on n'y croit plus pour eux deux?
Jakobs, bah, ça dépend ce que tu appelles, on n'y croit plus. Ewan, non, on n'y croit plus depuis un moment. Enfin, je m'étais remis à y croire un moment, mais non. Jakobsen, je ne sais pas, parce que je me demande s'il n'y a pas eu un souci quand même. Pour être à ce point-là à la ramasse dès le départ, est-ce qu'il était, je sais pas, malade, en défaut de préparation, ou est-ce que c'est son vrai niveau? J'ai quand même un peu de mal à le croire. Maintenant, est-ce qu'on n'y croit plus pour être le meilleur sprinteur du monde? De toute façon, non. Ça.
Non, clairement, est-ce qu'il y en a seulement un qui fait un top 10? Oui, si, je pense qu'Ewan fait 9 sur le dernier sprint à Rome. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Tu disais tantôt, c'est cyclique, mais il y a un moment où on arrive en fin de cycle quand même. Et ici, je pense qu'on a deux gars qui sont en fin de cycle, sans doute à des niveaux différents. C'est-à-dire que Ewan, ça fait un moment qu'on dit qu'il est en fin de cycle. En tant que suiveur belge, on a beaucoup suivi ce qu'il a fait chez Lotto Destiny la saison dernière, c'est-à-dire pas grand-chose. Et rappelez-vous, depuis le début de la saison, quand on parle des One, je ne vais pas dire qu'on en rigole, parce que ce serait vraiment manquer de respect par rapport à la carrière, évidemment, de l'Australien qui reste fantastique. Mais là, clairement, depuis 2 ans, ce n'est pas qu'il n'est pas rapide, c'est qu'il ne veut plus frotter. Allez, quand on a un tel plateau, c'est inévitable. Et Jacobsen, je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de forme? Est-ce qu'il était là en tant que préparation pour le tour? Est-ce que voilà, j'en sais rien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que même quand ces deux gars-là sont normalement un cran en dessous, ils doivent toujours être devant des gars comme toujours, sans vouloir le manquer de respect, des Lonardi, des Agnolkowski, qui ont fait régulièrement, enfin régulièrement, qui ont eux par contre été chaque fois chercher une belle place au Giro. Donc là, il y a clairement effectivement un très 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 gros manque de leur part, d'autant que ils venaient quand même avec l'étiquette de gars protégés dans leur équipe. Et alors, je vais terminer par ça. On a tous entendu cette critique d'Ewan sur son équipe. Hein, quand on lui demandait c'est quoi la différence, bah, c'est parce que moi, j'ai pas une équipe pour m'emmener. Enfin voilà, ce serait même le cas. Ça ne se dit pas, déjà. Et alors, quand on regarde un petit peu l'équipe, bah, des Wildschild ou autres, je veux dire, il y a combien de coureurs qui auraient adoré avoir des gars pareils, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, vous l'avez dit, hein, vous l'avez un petit peu sous-entendu, pas vraiment de conclusion à tirer sur ce Giro, tant Milan et Merlier étaient au-dessus du lot et qu'au final, on n'a pas eu tant de confrontations l'un contre l'autre sur ce Giro. Tout à fait autre chose, autre point qu'on a également abordé avant ce Giro, c'est le top 10, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même assez peu de coureurs qui étaient venus sur ce Giro pour faire un classement général. Et on se doutait bien qu'il allait en avoir certains qui auraient eu des problèmes, des maladies ou autres. Et donc on s'était dit, il y aura des grosses surprises dans ce top 10. Bon, au final, ok, il n'y a pas de sprinter dans le top 10, hein, mais il y a quand même des surprises.
Je ne trouve pas qu'il y ait une énorme surprise.
Moi non
C'est-à-dire
plus.
que je n'aurais pas cité tous les noms qui y sont, évidemment, mais en fonction des aléas, des courses, certains abandons, la chute de Caruso, enfin voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un nom qui me choque absolument dans ce top 10. Allez, top 10, j'aurais quand même vu. Moi, ma grosse surprise, mais on va plus loin que le top 10, c'est Martinez, auquel je ne croyais pas. Donc,
Ça
fatalement,
m'a allé.
évidemment, totalement bluffé. Mais voilà, sinon, sur le nom de top 10, moi, personne ne me choque.
Ouais, peut-être. S'il y avait un nom à sortir, je dirais Storer. Moi, c'est vrai que Storer, c'est peut-être le gars que
Bon.
j'aurais pas cité avant, mais il y a finalement peu de gars derrière qui auraient pu prétendre. Ou alors, ça aurait été du même acabit, hein, quand vous regardez les Zana, Fortunato qui termine, je dirais lui. C'est des gars qui. On pouvait les attendre à la 10e, voire même 9e place, ça n'aurait choqué personne. Je trouve qu'on a un top 10 finalement assez attendu. En tous les cas, les gars qui venaient pour faire un classement, et on savait que ce serait compliqué d'aller chercher le divin slovène, mais pour les autres, ils ont répondu présent en fait. Hein. À part effectivement l'un ou l'autre, et encore qui est passé complètement à côté ou qui a abandonné, tous ceux qu'on aurait pu citer en début de tour, bah, ils sont là, ils sont présents.
Ouais, top 10 moins improbable que prévu. Bon, tout de même, Storer, je ne l'aurais pas cité. Et Jan Hirt, qui a clairement un top 10 de grand tour dans les jambes, on le savait, mais en 2024, on ne le savait pas forcément. Donc, bon, pas de surprise, mais quand même quelques noms sur lesquels on n'avait pas misé. Maintenant, dans le top 5, par le top 6, pour avoir un petit peu plus loin, des noms qui vous ont fait plaisir, qui vous ont surpris, qui vous ont déçu, peut-être?
Mais je vais me permettre là de brûler la politesse cette fois-ci à Damien pour lui répondre à la question plus précédente. Rappelez-vous, en début de, enfin avant le Giro, j'avais dit s'il est au top de sa forme, Martinez pour moi est le grand favori à la 2e place. Il ne m'a même pas fait mentir. Pendant toute la première semaine, je me suis dit ouh, il y a un moment ça va craquer, ça va lâcher. Il n'a jamais lâché, il n'a jamais craqué. Au contraire, bon, bien sûr, pas pour aller rivaliser de nouveau avec Pogacar, hein, mais c'est celui qui a laissé la meilleure impression sur les 3 semaines. C'est le seul qui n'a jamais craqué ou laissé transparaître une vraie faiblesse. Thomas, bah, c'est quand même un petit peu sans doute le poids des années qui commence à se faire sentir. O'Connor a été peut-être le plus impressionnant lors de la première semaine. C'est parce que il présage un peu de ses forces sur Europa et donc il suit de Pogacar et puis il prend une mine dans la vue. Ben, à la fin de la première semaine, si on enlève 7 minutes, il est sur le podium. Et par contre, il a été un peu limite en troisième semaine. Et Tibéri, bah pareil, Tibéri, c'est de nouveau, c'est sur Europa où il perd 2 minutes. Bah, rajoutez-lui, enfin, enlevez-lui 2 minutes ici, il joue le podium aussi. Hein, donc voilà, c'était un top 5 qui, je trouve, est assez, assez homogène, qui il n'y a pas grand-chose qui les a séparés. Et on a eu, de nouveau, je rejoins un peu Damien, on aurait terminé ce Giro il y a une semaine, on aurait dit, on a eu une belle bagarre pour ce podium. Et c'est vrai qu'ici, on se laisse, enfin moi, ça me laisse un peu sur ma faim, dans la mesure où les grosses étapes de la troisième semaine, je ne vais pas dire qu'elles ont été escamotées, ce serait exagéré, mais on a pris plus de plaisir à savoir qu'ils ont échappé. Et finalement, du côté des favoris en dehors de Pogacar, on s'est beaucoup regardé, j'ai l'impression, et on a beaucoup roulé au train, ce qui n'avait pas forcément été le cas lors de la première semaine, voire de la deuxième semaine. Après, on rappelle, on est sur un grand tour, troisième semaine de course, il a quand même plu énormément en montagne, donc voilà, c'est inévitable que les organismes étaient usés durant cette fin de Giro.
Oui, moi ça m'a marqué, notamment sur l'avant-dernière étape. Encore un petit mot sur Dani Martinez. Non seulement il n'a pas craqué, mais surtout il s'est bonifié au fur et à mesure. Et sur cette 20e étape qui était celle que je redoutais pour lui, c'est encore lui qui attaque derrière Pogacar. Hein, on met Pogacar à part. Donc je veux dire, oui, il m'a vraiment, vraiment bluffé. Un petit mot aussi sur, bah, en fait, surtout ceux que tu as cités. Geraint Thomas, on va vite passer. Pour moi, c'est égal à lui-même. Comme tu dis, bah, ça ne peut plus rester aussi bon. Ça ne va faire que diminuer un tout petit peu. Ben O'Connor, je suis un peu déçu. C'est peut-être dur, hein, parce que c'est pas mal ce qu'il fait, mais je suis un peu déçu parce que moi, je m'attendais en montagne à ce que ce soit lui le deuxième homme, à ce qu'il fasse des différences par rapport aux autres. Donc au final, bon, il est au niveau des autres. Voilà, j'attendais mieux. Tibéri, Europa, on rappelle que c'est son problème mécanique, hein. Donc Tibéri, en fait, il n'est pas loin d'aller jouer au podium. Lui, quand même, c'est quand même une fameuse confirmation. On l'attendait, mais voilà, c'est quand même assez bluffant, franchement.
Ouais, et je sais pas si vous avez pas vu, si vous avez vu, pardon, passer ce tweet qui vient d'Amérique du Sud. Mais bon, n'importe qui aurait pu le faire aussi. C'est le classement, le top 10 du Giro, si on enlève les chronos. Bon, pas de surprise, Pogacar est devant. Mais qui voit-on poindre à la quatrième place? Ainer Rubio, le petit Colombien de la Movistar, qui effectivement, quand la route s'est élevée, sans jamais être impressionnant, hein, il s'est contenté de suivre façon Movistar. Et ben, malgré tout, il a quand même montré, c'est une très belle confirmation en tous les cas en ce qui le concerne dans la montagne. Mais voilà, c'est vraiment le prototype du petit grimpeur colombien qui va prendre un tir sur chaque chrono. Et donc c'est ça qui lui coûte évidemment une place dans le top 5. Sinon, c'était quelqu'un qui restait fort discret, mais qui était tout le temps présent et qui n'a, pour ainsi dire, jamais craqué non plus.
Dans le top 5, il y a un grand absent. Vous êtes d'accord avec moi
Un
quand même?
Belge.
Ah non, non. Oui, mais parce qu'il a abandonné. Non, pour moi, il y a quand même un grand absent par rapport à ce que tout le monde pensait au départ. C'est Romain
Ah,
Bardet.
ouais, bien sûr. Bien sûr.
Parce que maintenant, avec un peu de recul, plus personne n'a l'air de s'en étonner. Mais au début du Giro, c'était quand même un des noms qui revenait le plus pour aller sur le podium
Ouais.
derrière Pogacar.
On
J'avoue
n'aurait
que je suis
peut-être pas
un
dû, mais...
Bah, ouais, je sais pas. J'avoue que je suis un peu déçu par ce qu'on a vu. Bon, voilà.
Mais il a souvent donné l'air, je trouve, de rouler un peu à contre-courant, d'essayer quelque chose quand il n'y avait pas vraiment lieu de le faire, ou quand UAE, voire même Pogacar, contrôlait, et puis à certains moments prendre l'échappée, sachant que c'était foutu d'avance. Et à d'autres moments, on se dit, bah, là, il doit y aller, et il n'y va pas. Enfin, de nouveau, c'est très facile à dire quand on est dans notre fauteuil. Moi, je reste convaincu que c'est quelqu'un qui peut faire aujourd'hui effectivement un top 5, top 6, top 7. Mais quand on voyait les chronos, et pourtant il perd pas tant que ça sur les deux chronos. Mais j'ai presque regretté qu'il n'ait pas pris plus de minutes dans la vue en première semaine pour qu'on le voie plus à l'avant dans les deuxième, troisième semaines. Qu'il nous aurait fait un peu comme un Giulio Pellizzari qu'on a vu à l'attaque pratiquement tous les jours, ça aurait pu être vraiment sympa, je trouve. Et là, il y avait vraiment quelque chose à aller chercher. Mais voilà, c'est toujours un peu le même problème de ces coureurs qui sont un peu en deux objectifs, entre faire un bon classement général, aller chercher une victoire d'étape. Et finalement, ben, voilà, on voit que c'est toujours très difficile de faire les deux, sauf quand on est évidemment au-dessus du lot comme Pogacar.
Un petit problème de constance, en fait, hein, Bardet. C'est pour ça aussi que c'est un peu décevant, parce que des fois, il est avec les meilleurs. C'est un peu inexplicable, hein. Des fois, il est avec le meilleur, et le lendemain, bah non, finalement, il est un peu en dessous.
C'est vrai qu'au final, c'est un chasseur d'étapes qui nous fait le plus vibrer, hein, Bardet. C'est peut-être un peu là qu'on devrait espérer le voir. Alors, dans ce top 10, il y a beaucoup de noms que vous avez mentionnés. Certains vous ont déçu, d'autres vous ont ravi. Si vous devez retenir peut-être une révélation et une déception de ce Giro.
Au top 10, donc, hein. Ouais.
Oui, bah après, vous pouvez quand même mentionner des coureurs du top
Oui,
10, mais
oui.
de manière générale, oui, peut-être aussi parler d'autres coureurs dont on n'a pas encore parlé.
En fait, révélation, c'est toujours dur. Le mot est toujours dur parce que tu l'appliques à quoi, hein? Tu vois, on va plutôt dire, dans un premier temps, avant de parler de révélation, j'aurais envie de citer deux très bonnes surprises. Alaphilippe, bon, je reviens dessus à chaque épisode qu'on fait durant le Giro, mais le niveau d'Alaphilippe, quoi, hallucinant, je ne m'attendais pas à ça, sans dire que c'est le champion, on a vu le champion du monde, hein, pas à ce point-là, mais je n'attendais
Non,
pas à
non.
Alaphilippe, donc super surprise. Et alors, bah, tu viens d'en parler, Pellizzari, on l'avait vu au tout début du Giro, puis il a été malade, et on parle quand même d'un gamin qui fait son premier grand tour, et en troisième semaine, les numéros qu'il nous a sortis là sur les dernières étapes de montagne, c'est quand même assez hallucinant. Et pourtant, j'ai pas envie de dire révélation parce que bah, c'est quelqu'un qui est attendu, je veux dire, vu ce qu'il a fait sur le Tour de l'avenir. Donc ça, c'est les deux vraies bonnes surprises. Maintenant, si tu me demandes révélation, j'ai deux noms. J'ai un nom où ça ne s'applique pas encore très bien, parce qu'on le connaissait quand même un petit peu et il avait déjà montré quelque chose. Mais pour moi, quand même, ce qu'il a montré, c'est absolument incroyable. C'est Valentin Paré-Pathe.
Évidemment.
Extraordinaire. Alors, encore plus révélation, parce que lui, je ne connaissais pas. Steinhauser.
Ouais,
Exceptionnel. Romain rigole parce que c'était ses noms, je suppose.
Écoute,
évidemment.
tu viens de me citer tous les noms que j'avais sélectionnés
Oh, mince
et
alors.
chaque fois avec la petite subtilité de se dire effectivement, Pellizzari, c'est quelqu'un qu'on pouvait attendre. Je prends un bête exemple, je reviens souvent un peu avec les précédents numéros du petit plateau. On avait notamment fait un numéro spécial Italie avec Enzo, hein, analyste Phoenix sur Twitter, et on avait beaucoup insisté sur Pellizzari qui était avec Piganzoli. Qu'on a moins vu, mais Pellizzari qui était effectivement ce petit grimpeur de poche italien qui pouvait déjà montrer de belles choses. Personnellement, j'y croyais pas. C'est pour ça que j'en ferai une révélation quand même, c'est que je ne pensais pas qu'il serait aussi fort en premier grand tour, en première saison. Et comme tu l'as dit, sur le Monte Grappa, mais aussi sur, je pense que c'est la 16e étape. Bah, c'est le dernier à tenir tête à Pogacar, chaque fois en prenant l'anticipation. Enfin, il fallait quand même pouvoir le faire aussi. Donc, il a montré très belle chose. C'est quelqu'un qu'on va revoir à tous les coups, effectivement. Et puis, les deux autres que tu cites, Valentin Paré-Peintre et Steinhauser, clairement, moi, ces deux révélations, on avait effectivement, oui, si on sait que Valentin Paré-Peintre avait gagné l'étape, je pense, du Tour des Alpes, quelque chose comme ça. Mais moi, il m'a vraiment. C'est celui qui m'a le plus bluffé, en fait, sur ce tour. Parce que c'était pour moi un des trois, ou allez, cinq meilleurs grimpeurs de ce Giro. On l'avait déjà vu très fort en première semaine, je crois que c'est sur l'étape de la 8e étape, je pense, Prati di Divo, où il est dans l'échappée matinale. Tout le monde se fait prendre un à un, et lui résiste à tout le train UAE. Hein, ils sont soumis, donc Groschartner, Novak, Maika, avant de finalement être repris. Et là, on s'était dit, wow! Solide le mec. Et puis il va gagner son étape en déposant Bardet, littéralement. Et encore après ça, en travaillant pour O'Connor. Si O'Connor est quatrième, c'est notamment grâce à Valentin Paré-Peintre. Hein. Quel travail nous a fait, enfin, 52 kilos tout mouillé dans Monte Grappa. C'est lui qui fait toute la montée dans le groupe Thomas, comme on l'a appelé, mais c'est lui qui a fait toute la montée devant, quoi. Donc vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort en haute montagne. La France qui aime se chercher des nouveaux talents en haute montagne depuis la retraite d'un certain Thibaut Pinot. On a évoqué beaucoup de noms depuis le début de la saison, notamment dans notre épisode spécial consacré aux nouvelles habitudes françaises, et on n'avait pas cité, hein, Valentin Paré-Peintre. Donc là, moi, j'ai honnêtement, il m'a donné une claque. Voilà. Et c'est vrai que Steinhauser, très rapidement dessus, Steinhauser, oui, si je connaissais son nom, je ne savais pas du tout de quoi enfin, ce qu'on pouvait attendre de ce gars-là. Et donc, il était performant régulièrement, et c'était presque naturel qu'il ait cherché son étape avant la fin du Giro. Donc, c'est voilà, quelqu'un que je découvre totalement, par contre, ici.
Juste, vous le dites, il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés par rapport à différentes performances. C'est dur de parler de révélation d'un coureur qu'on connaît déjà, d'autant plus qu'un certain Enzo nous avait prévenu. Mais vous utiliseriez quel mot pour Tibéri, vous, du coup?
Révélation, confilation. Non, ben je sais pas. Ouais, plus révélation, confirmation, c'est un peu entre les deux, mais c'est quand même vraiment costaud ce qu'il a fait après. Bon,
Ouais,
pour nuancer
top
avec le
5 quand même, hein.
plateau, avec le type de parcours, etc., avec les chronos qui étaient là. Mais même justement, si on bouge les chronos, il est bon, il est là, il est dans le match.
Ouais.
Donc, ouais.
Et du peu que j'ai vu, c'est un des seuls qui attaque.
Oui.
En plus, le tempérament est là, oui, c'est vrai.
Je pense que c'est le seul qui attaque Pogacar ce tour.
Ouais.
Martinez a souvent accéléré derrière, c'était un des rares à pouvoir tenir, ou en tout cas essayer de suivre derrière. Mais Tibéri est un des rares à avoir attaqué. Et on a déjà parlé lors des débriefs de première et seconde semaine en disant que voilà, sur les réseaux, ce gain n'est pas apprécié pour des raisons extrasportives. Mais sur ce Tour d'Italie, il était assez extraordinaire. Et c'est vrai que je dirais confirmation en ce qui me concerne. Mais confirmation, maintenant on attend encore un peu plus, quoi. Donc c'est plus confirmation par rapport à ce qu'on nous en avait dit. Et là de nouveau, je reviens effectivement par rapport à ce que Enzo nous en avait dit. Si Enzo ne nous avertit pas finalement que Tibéri est peut-être, je reprends ces mots, hein, le meilleur Italien sur un grand tour cette
Ah
année-ci,
ouais.
et il a tout à fait raison du coup ici, si le gars fait un top 10, je me dis waouh, c'est pas mal, quoi. Mais de là à aller chercher un top 5 en étant qui plus est en lice pour le podium, ça je ne m'y attendais pas. Donc ouais, c'est effectivement, tu mets le doigt dessus, on est entre la révélation et la confirmation, je trouve.
Assez compliqué à définir. Alors Damien, juste un petit mot avant de passer à autre chose. Tu parles de Julien Alaphilippe. En effet, pour moi, ce n'est pas tant le niveau affiché qui est impressionnant, c'est surtout le chemin qu'il a dû accomplir, à mon avis, pour retrouver ce niveau. C'est assez impressionnant et ça traduit d'une force mentale absolument phénoménale. Donc voilà, ça fait plaisir à voir.
Mais
Sinon, le... Oui, vas-y, vas-y.
tu nous avais demandé, tu parles à Philippe, donc je vais rester dans la même équipe, tu nous as demandé aussi si on avait des déceptions.
Exact.
Ben je reviens toujours avec la même chose, le pauvre, parce que je suis dur avec lui, mais
Ouais.
Maury Van Sevenant, ben, presque fantomatique, alors qu'avec ce qu'il nous avait montré sur les classiques, et en fait, le pire, c'est si je regarde certaines étapes, je pense que les jambes étaient là. Je n'arrive pas bien à comprendre le Giro de Mori. Il y a des fois, quand on voit, ils sont plus si nombreux, par exemple dans le groupe en montagne, dans le groupe des favoris, et il est encore là parfois à s'accrocher. Donc je me dis, mais les jambes, elles sont pas dégueulasses. Si tu étais parti en échappée, tu aurais peut-être pu faire un truc intéressant. Je ne sais pas, est-ce que c'était tout pour Julien, parce que Julien, finalement, avait niveau, était dans la bonne dynamique, je vais dire. Je ne sais pas. Mais voilà, déception, lui, Pitti, que j'attendais très fort et qu'on n'a pas vu. Déception aussi, et une grosse, grosse frustration. C'est pas une déception parce qu'il fait pas un mauvais Giro du tout, c'est Zana. Parce que vous avez parlé de Bardet en chasseur d'étapes, mais Zana, arrêtez de me le faire jouer au classement général, par pitié, laissez-le aller chercher des étapes.
Mais
Ouais.
ça m'arrange que tu parles de Zana parce qu'effectivement, Zana Fortunato, ils ont eu, je trouve, le même Giro. C'est-à-dire que c'est des gars qui pouvaient effectivement viser un top 10 et qui se trouvaient chacun dans une équipe avec un deuxième leader. Et quand Dunbar abandonne très tôt du côté de la Jayco et quand Lutsenko abandonne très tôt du côté d'Astana, on s'est retrouvé avec deux équipes qui ont besoin de points pour leur distance pour le tour, et où je peux imaginer que dans les voitures des DS, on ait dit à Zana et à Fortunato, bon, tu t'accroches le plus longtemps possible et tu essaies d'aller nous faire un top 10. Bon, au final, 11e, 12e, c'est peut-être entre guillemets une petite leçon. Je pense que si au moins une fois, alors ils ont essayé de prendre au moins une fois de l'échapper, mais s'ils avaient pris un peu plus comme un Storer ou comme un Bardet finalement, ben, peut-être que ces gars-là se trouvaient 7 ou 8e. Donc je te rejoins un petit peu effectivement là-dessus. Sinon, des déceptions, tu as cité Pitti, il a fait un super printemps, donc il est peut-être arrivé un peu cramé, hein, il est quand même très jeune. Mais de manière générale, ben moi je l'aurais mis la Groupama. C'est une équipe, il y a Enzo Paleni qui nous a fait une belle. Qui va faire gagner finalement Benjamin Thomas sur la cinquième étape, mais en dehors de ça, en dehors de Paleni, on les a absolument pas vus, quoi. C'est évidemment une équipe très jeune. Peu d'expérience, mais Voilà, ils sont passés un peu à côté. En réfléchissant ici, avant de préparer l'émission, sous les déceptions, j'aurais effectivement plutôt été vu du collectif et Groupama. Et j'ai pensé aussi à Intermarché, mais Intermarché, ce serait. Parce que, bon, Intermarché perd Guirmay est déjà très tôt aussi. Et puis, bon, ils ont quand même un peu existé en tout début de course avec Calme Jeanne, qui a porté le maillot notamment de la montagne pendant 2, 3 jours. Donc, voilà, je serais moins sévère avec Intermarché, mais c'est des équipes, on les a pas vues, quoi.
Et j'aime bien que tu parles d'équipe parce que je m'étais noté un truc et je regarde même pas mes feuilles en parlant. C'est ça le talent, hein, j'y vais au talent. Et du coup, j'oublie ce que je l'avais noté. Tu fais bien de parler de dimension collective parce que dans les, alors on peut pas dire révélations, etc., mais dans les grosses satisfactions, c'est Polti et Bardiani. Moi, franchement, j'ai adoré leur Giro avec plein de coureurs différents. Ils ont leur leader, entre guillemets. Leader Pellizzari, il n'a pas fait un classement général, mais les deux jeunes Italiens qu'on attendait, donc Pellizzari s'est montré, et puis Ganzoli, tu dis, on l'a beaucoup moins vu, effectivement, mais il a pris le parti, lui, de faire un Giro à la régulière en se testant. C'est quoi, cette 13e finale ou un truc comme ça? C'est quand même pas mal, hein, même si le plateau n'était pas extraordinaire, pour un gamin qui fait son premier grand tour, c'est pas mal du tout. Et alors, ben, on les a vus à l'avant, on a vu Maestri, on a vu Pietro Bonne, dans l'autre équipe, on a vu Fiorelli, enfin, vraiment, chapeau à ces équipes-là.
Ouais, clairement, ils ont fait plaisir à voir. Et alors, Van Sevenant, tu en parlais, Damien. Moi, plus encore que son Giro, hein, qui est incompréhensible, c'est le style du coureur que je ne comprends pas. Il fait 60 kilos, il devrait être un grimpeur parfait. Et au final, c'est sur des efforts de moins de 5 minutes, avec moins de 10 minutes, on va dire, qu'il est le plus impressionnant. Donc vraiment incompréhensible. Maintenant, un coureur qui est fort sur 10 minutes, sur une demi-heure et sur une heure, on n'en a pas encore parlé, mais il va falloir y venir. Tadej Pogacar, ultra domination, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a énervé, embêté aussi? Est-ce que vous avez réussi à trouver des leçons, à tirer des leçons de son Giro? Ou bien vraiment, c'est ce qu'on attendait?
Pour moi, c'est ce qu'on attendait.
On l'avait dit, hein. On l'avait dit
Oui.
avant le Giro. C'était victoire, c'était free win, comme on dit. Et avec un tel écart, honnêtement, ça c'est difficile à dire. Je suis pas surpris. Cela dit, moi je crois que je l'ai quand même jamais vu aussi fort que sur ce Giro. Je crois qu'il a atteint un sommet. On l'avait déjà vu fort sur certaines courses, vraiment au-dessus du lot. Mais si je compare avec ses deux victoires dans le Tour de France, pour moi ici, il était un cran au-dessus. Et en plus, il y avait effectivement une concurrence qui était un cran en dessous, pour ne pas dire deux crans en dessous. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas eu débat. Il n'y a jamais eu débat. Il n'y avait pas débat avant le départ, on le savait. Voilà, je sais qu'il y a énormément de gens du coup qui sont suspicieux, qui trouvent que c'est anormal, qui vont aller prendre les datas en disant ça prouve bien que c'est inhumain, que voilà, moi je sais, je suis un grand naïf. Bah, tant qu'on m'a pas prouvé que le gars n'est pas clean, bah, dans mon sens il est clean. C'est quand même la présomption d'innocence, c'est un principe juridique majeur. Et je trouve que il est tellement éblouissant. Et puis au-delà de ça, c'est un malin quand même, parce que il écrase, il domine. Alors déjà, un coureur qui domine, c'est comme en football, quand une équipe domine, souvent les gens sont contre cette équipe-là. Et ici, le nombre de petits gestes, de petits trucs, il va prendre un bidon, il le file au gamin. Enfin, il y a eu tellement de petits gestes sympas aussi qui fait que ça reste un gars qui est là, qui s'amuse et on a envie de le voir s'amuser en fait. Donc ça m'a beaucoup moins dérangé que si c'était un autre coureur qui avait ultra dominé à ce niveau-là.
Je suis content que tu parles de ça parce que ce que j'avais noté sur ma feuille concernant Pogacar, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les performances de Pogacar, selon moi, du coup, c'est le côté qui devient détestable autour de lui, je trouve. Malgré tout, malgré ses petits gestes, etc., je trouve que l'opinion, en tout cas, ce qu'on en voit, nous, par exemple, sur Twitter, ça devient vraiment détestable. Les suspicions, j'ai pas de problème. Franchement, j'ai pas de problème. Ses performances sont tellement. J'ai aucun problème à ce qu'on se pose des questions. On en est dans des accusations maintenant, c'est plus du tout des suspicions, on est dans des accusations, et pire, on est dans des accusations, mais avec force, mais c'est des affirmations, quoi. Il n'y a plus aucun doute, et encore pire, on te prend pour de haut, on est condescendant quand toi, tu n'as pas envie d'être accusatoire. Là, on arrive à un problème. Alors, je suis désolé, d'ailleurs, ils ont essayé de se reprendre assez vite. L'histoire du bidon, quand sur Eurosport, t'en as un, je crois que c'est Degrassi, mais peu importe qui, je m'en fous, c'est pas la question. Qui fait un commentaire en disant ah ben le gamin maintenant avec ce bidon-là, il va pouvoir monter ça, etc. Enfin, je sais plus exactement quel était le propos, mais le sens était celui-là. On est là sur Eurosport, sur une chaîne comme ça. Non, je suis désolé. Après, tu essayes de te reprendre en disant que c'est de l'humour, mais non, tu fais pas de l'humour comme ça, je ne trouve pas. Donc,
Ou alors tu l'expliques à tout le monde, parce que il faut quand même le dire, hein, c'est pas toujours de l'eau dans les bidons, ce qui ne veut pas dire que c'est des produits illégaux, bien sûr, mais il y a, c'est pas toujours de l'eau, c'est des produits qui aident à récupérer, il y a du sucre, il y a des cétones aussi pour certaines équipes. Donc au minimum, tu expliques que oui, parfois, il y a quelque chose, mais là, clairement, tu justifies, tu te dis non, j'accusais pas de dopage, parce qu'il y a quand même un pas entre ce qu'on peut trouver dans les bidons et du dopage, quand même.
oui, et
Oui.
puis il n'aurait pas fait que le bidon de n'importe qui.
Oui,
Honnêtement,
non, mais ça, c'est sûr.
il n'y avait même pas d'esprit à éduquer, etc. C'était vraiment la petite pique avec Pogacar. Et je ne pense pas qu'il le. Enfin, je ne sais pas en fait s'il le pense. Je ne sais pas comment ça peut sortir naturellement comme ça, mais j'ai vraiment été choqué en fait.
Par contre, ce qui m'a plu, c'est qu'à un moment, je ne sais plus sur quelle étape, toujours sur Eurosport, on demande, c'est un internaute hein, qui demande, tiens, est-ce que le mec vient de nulle part, etc. Comment est-ce que Pogacar peut être aussi fort? Et là, Philippe Gilbert, donc, qui est consultant pour Eurosport, a dit, non, non, le mec ne vient pas de nulle part, certainement pas. Déjà chez les jeunes, on avait remarqué qu'il avait une puissance, une capacité physique au-delà, au-dessus de la moyenne. Pour ne pas dire au-dessus du lot. Et quand il est passé pro, sur ses premières courses professionnelles, il a démontré un sens tactique hors du commun. Ben forcément, c'est comme dans tous les sports, quand vous avez un. Je vais prendre un autre exemple parce qu'on l'a évoqué dans ces débriefs par semaine du Giro. Prenez en football un Zinedine Zidane. Le mec était au-dessus du lot, ça ne s'expliquait pas. Il y avait une question de talent, il y avait une question de placement. C'est pas parce que le gars allait se changer le sang en Suisse comme certains à un moment l'ont laissé imaginer. Non, voilà. Après, il y a. Alors, c'est peut-être un. Je vais pas dire un accident, mais c'est peut-être tout à fait un hasard. Pendant que Pogacar démontrer cette ultra domination. Il y a eu un petit truc sur le Tour de l'Oise, enfin c'est même pas le Tour de l'Oise, c'est une course amateur dans l'Oise. Je sais pas si vous avez passé ça. Un gars suspecté d'un moteur dans son vélo, qui bon. Et du coup, ça relançait effectivement le dopage mécanique. Et ben oui, ben ça explique. Et puis vous avez effectivement des gens toxiques, hein, faut vraiment le dire sur les réseaux sociaux, qui ne sont là je veux dire, attaquer dans tous les sens, parce que on fait plus de vues quand on attaque quelqu'un frontalement que quand finalement on dit ah c'est chouette ce qu'il a fait. Ça c'est la vie des réseaux. Mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de basculement sur ce Giro où pas mal de gens qui d'habitude ont un discours je veux dire, nuancé. Être nuancé ne veut pas dire qu'on ne croit pas à l'un ou on ne croit pas à l'autre. C'est que voilà, on laisse la porte ouverte. Et il y a pas mal de gens effectivement qui se sont un peu détournés de cette nuance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus incisif. Et là, je te rejoins totalement. Je trouve ça assez détestable. Et j'anticipe, si dans 10 ans, on vient nous dire, ah, voyez, regardez, on a découvert que, etc. Ben oui. Mais je pense sincèrement que si jamais Pogacar est dopé, les autres le sont aussi. On est dans un cyclisme aujourd'hui où tu peux plus avoir un mec qui passe à travers les mailles du filet pendant que les autres sont totalement clean, c'est pas possible.
Tu
Ouais,
parles de
c'est.
nuancer, pardon, juste un tout petit truc, parce que justement, j'ai peut-être été aussi attaqué. Par contre, je vais être nuancé, j'ai beaucoup aimé suivre ce Giro sur Eurosport, je tiens à le dire.
Oui.
Ce moment-là m'a déplu, mais sinon, j'ai assez apprécié suivre le Giro sur Eurosport.
Et c'est clair que bon là le climat il est assez pesant. Maintenant, comme vous l'avez dit, des suspicions, on peut le comprendre. Moi, pour être très honnête, je suis quelqu'un qui suis pas très vite suspicieux. Pogacar, je vais pas mettre mes deux mains à couper qu'il est clean. Ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que il y a certaines images où il a l'air d'une facilité tellement montre qu'on peut et on doit même se poser des questions. Après, c'est clair et net que Pogacar, et ça j'ai pas le moindre doute, Pogacar a des capacités physiques immensément plus forte que tous les autres coureurs du top 10, mais là, il n'y a pas photo, vraiment, hein, produit par produit. Donc ça, il faut le savoir. Et on vit dans un sport où il y a une suspicion constante, et il y a une suspicion constante contre le vainqueur. C'est que le vainqueur qui est suspect. Donc voilà, Pogacar en prend plein la tronche, alors qu'il est peut-être clean de 1, et que si, comme tu dis Romain, s'il n'est pas clean, bah, il est fort probable que les autres ne le soient pas non plus. Donc voilà, il faut être très clair sur le fait que Pogacar est un monstre absolu. C'est pas dit qu'il soit clean, mais il est plus fort que les autres, ça j'en ai pas le moindre doute. D'ailleurs, vous savez bien que j'aime beaucoup parler de chiffres et de temps d'ascension. Je vais faire des analyses un petit peu plus poussées en vue du Tour de France. Mais de ce que j'ai vu ici, donc c'est-à-dire sans analyse des éléments extérieurs pour le moment, sur des ascensions de 30 minutes qui sont quand même ce qu'il y a de plus fréquent dans un grand tour, bon, Pogacar, confirmation, c'est un monstre absolu, intouchable, indétrônable. Et justement, sur la dernière ascension de ce Giro, qui a duré 51 minutes pour lui, c'est, je pense, encore une fois, je vais devoir vérifier, mais c'est, je pense, d'assez loin la meilleure performance de Pogacar sur une ascension aussi longue. Ce qui ne veut pas dire qu'il aurait suivi Vingegaard sur cette ascension, mais clairement, quand on voit les chiffres, il n'est plus très loin de ce que Vingegaard a pu faire sur ces 2-3 dernières années. Donc, je vais peut-être devoir revoir un petit peu ce que j'ai toujours dit sur Pogacar, parce que là, pour le coup, il bluffant, c'est sa dernière ascension.
C'est un truc qu'on se réjouit de voir, justement, hein, c'est de le voir. Moi, tu sais bien, enfin, Romain, comme moi, c'est toi le spécialiste ici de tout ça. Nous, on ne maîtrise pas tout ça. Mais en fait, justement, quand on ne maîtrise pas ça, c'est dur de se faire une idée parce que ici, sur ce Giro, vu l'opposition, moi, j'arrive pas à voir s'il a été plus fort ou pas que ce qu'il aurait été sur le tour, sur ce qu'on a déjà vu face à Vingegaard, tout ça. Tu vois, j'ai vraiment dur à me projeter là-dedans. Donc, j'attendrai avec impatience ton analyse plus fouillée et plus précise. Et tant mieux s'il se rapproche et qu'on peut avoir un jour un vrai match à Vingegaard. Bon, cette année, on verra dans quel état il est, mais si c'est pas cette année et que c'est l'année prochaine, ce sera bien aussi.
Mais il y a quand même un truc. Parce que c'est vrai que Montegrappa, hein, donc la 20e étape, c'est vrai que c'est en plus la 20e étape pendant la troisième semaine, et c'est là où il fait ses peut-être meilleures performances sur une ascension aussi longue. Mais là où moi j'ai trouvé le plus bluffant, c'est sur l'étape de Livigno, où sur 12 km, il va prendre 3 minutes à tout le monde. Et enfin, là, effectivement, là on se dit, c'est un talent fou, c'est peut-être le meilleur du 21e siècle. Et c'est pour ça que je dis, moi je crois que je ne l'ai jamais vu aussi fort, parce que. Même dans le Tour de France, quand il a écrasé la concurrence, c'était pas à ce point-là, mais on rappelle concurrence plus élevée sur le Tour de France, il n'y avait pas de tels écarts créés aussi facilement. Il y a quand même un truc qu'il faut aussi dire, c'est que on parle beaucoup de psychologique et de mental dans le vélo. Je veux dire, après une semaine, voire après 10 jours, tout le monde sait que Pogacar va gagner. Je veux dire. Au sein du peloton, je ne parle pas nous, nous, on avait dit bah oui, effectivement, mais surtout dans le peloton, tout le monde dit bah de toute façon, on le laisse faire son truc. Nous, on joue pour nous, il est inatteignable. Et donc, je veux dire, à partir du moment où le mec décolle dans Livigno, les gens n'essayent pas de le suivre parce qu'ils savent qu'ils vont se cramer, ils se disent je vais attendre de voir comment réagit l'autre et compagnie. Donc, de nouveau, c'est pas. Je pense que si on a une concurrence qui essaie vraiment d'aller le rechercher, elle n'y arrivera pas, bien évidemment. Mais il n'y a pas 3 minutes entre lui et le groupe dans lequel il était quand il démarre. Ça, j'en suis convaincu. Après, il va certainement mettre 1 minute, 1 minute 30, voire 2 minutes, mais il n'y a pas 3 minutes. Il y a tous ces aspects, je trouve, à prendre en considération. Et puis, effectivement, tu l'as dit, les éléments extérieurs, je vois souvent des gens qui reviennent avec, en parlant de chiffres ou data, qui reviennent avec, il a battu le record de 2002, Ouais, mais les gars, enfin, réveillez-vous, regardez un peu la qualité du matériel, la qualité des routes, on n'en parle jamais, mais les routes aujourd'hui, peut-être pas encore
C'est
le Tour d'Italie,
clair.
quoique, mais le Tour de France, ASO fait refaire toutes les routes avant que la caravane ne passe, avec du bon bitume, enfin, ça change la vie, hein. Si vous roulez un petit peu, ça change la vie d'un bon bitume et un mauvais macadam. Donc, il y a ça à prendre en compte, il y a le vent, il y a la pluie, il y a tout, il a un train, enfin. Je trouve que c'est un peu. Voilà, je ne vais pas revenir avec tout ce qu'on a dit ici précédemment, mais il y a énormément de facteurs qui permettent de comprendre et d'expliquer pourquoi Pogacar est si fort sans nécessairement se dire forcément il a un truc que les autres n'ont pas, il a un produit.
Oui, c'est clair. Et voilà, de toute façon, en plus, ce n'est pas le seul dominateur hein, dominant, comment, je ne sais pas comment on peut le dire, dans le monde du cyclisme. Est-ce que pour vous, c'est un problème ou est-ce que vous aimez bien ça? Il y a un climat assez pesant, mais est-ce que vous, devant votre télé, vous aimez bien ça?
Alors, ça dépend de plusieurs choses. Ici, j'aime bien en tout cas quand un gars qui est dominant comme ça ne le cache pas et roule comme un champion, il va chercher un maximum d'étapes et éventuellement des records, etc. Ça, j'aime bien ce côté-là du dominant. Maintenant, bien sûr que quand tu es sur Romain, tu dis dixième jour, il savait Pogacar avait gagné. Moi, je pense que le peloton le savait dès le départ. Honnêtement, je
Ah
pense.
oui.
Et ça, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage, évidemment, pour le cyclisme. Là où on n'a pas de bol ces derniers temps, c'est que on loupe toujours les affrontements. En fait, c'est pas si grave parce qu'il y a quelques dominants, mais ils s'affrontent pas. Malheureusement, c'est avorté pour dire. Bon, là, c'est une raison de calendrier, c'est encore autre chose, mais c'est toujours avorté. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce que des mecs qui dominent. Je vais peut-être dire une grosse connerie parce que c'était peut-être pas aussi fort, mais on en a toujours eu. Je vais dire, moi, si je regarde les pavés à l'époque, Brunan Cancellara, il gagnait plus d'une fois sur deux. Si on regarde les Contador, les Froome, ils semblaient intouchables aussi. Donc,
Et
je
dans
crois
tous
pas
les
que c'est
sports, hein.
nouveau. Oui, bien sûr, bien
Dans tous
sûr.
les sports, donc c'est le sport, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gars plus forts que d'autres, sauf qu'ici, bah, ça dérange.
Mais, alors, il y a deux choses. Bah, donc, comme je disais, peut-être dans les exemples que je cite, bah, il y avait quand même parfois un petit match, en tout cas un petit duel. Bon, là, ils auraient pu et deux, ça aurait été mieux. Et je pense que ça se marque aussi plus maintenant. Je ne sais pas s'il est plus dominant. Je crois que oui, Pogacar, notamment aussi parce qu'il est tout terrain, ce que n'étaient pas les autres que j'ai cités, pas les Bodoni, les Cancellara, etc. Mais aussi parce qu'on est dans un cyclisme qui a changé, qui est plus offensif, où les différences se font plus loin. Et moi, je suis persuadé que des Froome et des Contador, peut-être qu'ils auraient pu faire des plus gros écarts, sauf que ce n'était pas le cyclisme de l'époque. Encore, Contador était un attaquant, mais ce n'était pas le cyclisme de l'époque, et donc ça se marquait un peu moins.
Oui, puis peut-être que Pogacar est le meilleur de tous les temps, tout bêtement.
Oui, peut-être aussi, évidemment, oui.
Mais je ne sais pas si c'est. Enfin, est-ce que j'aime ou j'aime pas, à la rigueur, ce n'est pas la question. Tu demandais, est-ce que c'est un problème? Pour moi, non. Parce que, comme Damien vient de le dire, de tout temps, il y a eu des dominateurs ou des dominants. Par contre, ce qui se passe, je trouve, et là, il y a un problème aujourd'hui dans le cyclisme, c'est que quand. En face à face, en homme contre homme, tu n'es pas assez fort. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes collectivement de gagner contre ce gars-là. Et pour gagner contre un gars pareil, il faut pas mettre 8 gars corrects, il faut mettre des 8 gars forts. Et le gros problème, c'est que les meilleurs collectifs, bah, ce sont les équipes de ces dominants. On parle de Pogacar sur le Giro, mais allez voir aussi Van der Poel sur les Flandriennes. Van der Poel est clairement aujourd'hui le meilleur gars sur des classiques d'un jour, en tous les cas les classiques de type Flandrienne. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Il y a Philipsen, il y a Vermeer, il y a toute la clique de chez Alpecin qui est devenue. Qui s'est transformé en reine des classiques. Donc c'est ça le problème. J'aurais bien aimé voir un Pogacar ici face, pas forcément à Vingegaard, un Roglic ou un Remco, mais à un collectif avec Ayuso, avec Almeida, avec Adam Yates, avec Del Toro. Mais non, c'est les mecs de son équipe. Et là, c'est un problème. Là, je pense qu'il y a un souci. Pour illustrer vraiment ça, je vais prendre un autre exemple, peut-être même un contre-exemple. Et je vais un petit peu dépasser le cadre du Giro. Regardez Visma. Pour moi, la Visma Lease a Bike est le meilleur collectif sur l'ensemble d'une saison. Parce qu'ils ont ils ont certainement le meilleur coureur de grand tour et ils ont parmi les tout meilleurs coureurs de classique. Et cette saison, on parle de saison noire avec Van Baarle, Laporte, Van Aert qui se casse la figure ou qui chute sur les Flandriennes, avec Vingegaard qui va peut-être ne pas participer au Tour de France. Ici, ils arrivent avec Keanu Heuteboeck, paf, malade, abandon après 9 jours. C'est une saison noire, mais c'est pas une saison blanche. Je veux dire, sur les Flandriennes, ils vont quand même chercher les deux classiques du week-end d'ouverture, avec Tratnik sur l'Omloop, avec Van Aert qui était encore fit sur Kuurne. Ici, ils viennent quand même chercher aussi une victoire avec Olaf Kooi, qui est le seul à avoir tenu tête finalement aux deux ogres. Et entre les deux, on a Jorgensen qui va remporter Paris-Nice, qui est peut-être
Paris-Nice.
la plus belle course à étapes d'une semaine du calendrier. Il y a
Et
combien
Vingegaard
d'équipes?
Tirreno, donc il gagne
Et Vingegaard
ces deux
Tirreno.
courses-là qui sont toujours en parallèle, il gagne les deux.
Voilà, donc citez-moi une équipe à part Visma et peut-être UAE qui, en début de saison, se dit, nous, on va essayer de viser effectivement les deux courses d'une semaine de la saison finalement et le week-end d'ouverture. Ah, il y en a très peu. Donc on parle de saison noire finalement pour Visma, alors qu'il y a 15 ou 16 équipes du World Tour sur les 18 qui rêveraient d'avoir le palmarès actuel de Visma. Donc ça prouve bien qu'il y a effectivement un collectif qui est surpuissant chez Visma, qu'il y a un collectif qui est surpuissant chez UAE, qu'il y a un collectif qui est en train de se former et qui va devenir lui aussi surpuissant chez Bora Red Bull, hein, puisque on voit dans les transferts à venir que ça commence à être vraiment très 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 sérieux. Et puis il y a Lidl Trek qui essaie de suivre un peu la cadence, et puis derrière, on a un néant. Et de plus en plus, je vois passer ça sur les réseaux, il y a quand même un truc qui est assez sympa, je trouve. Parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, partant de ce constat, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et je trouve que l'idée d'un salary cap, elle commence à me plaire de plus en plus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un plafond de la masse salariale. On ne parle pas ici d'un plafond des budgets. On parle d'un plafond de la masse salariale des coureurs uniquement. Et ça peut être intéressant parce que ça pourrait simplement redistribuer en fait les forces en présence et donc d'avoir des courses peut-être effectivement un peu plus ouvertes ou en tous les cas d'avoir plus de meilleurs coureurs dispatchés dans plus de courses. C'est quelque chose qui pourrait être, je pense assez sympa. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les, enfin qu'on voit beaucoup, qui vient en fait des ligues fermées américaines, la NBA, la NFL. Le cyclisme dans World Tour, on est presque sur ce genre de format. On a un World Tour de 18 équipes qui vont participer à toutes les courses les plus relevées du calendrier. Et alors c'est juste que c'est pas fermé parce qu'on invite encore deux, trois équipes Conti Pro. Voire même continental, mais là on n'est plus sur du World Tour, on est sur du Pro Tour ou autre. Et donc, du coup, je vais être un petit peu long encore ici sur la réponse, pardon, mais une autre idée qui vient souvent du sport américain aussi, c'est l'idée de draft. De nouveau, pour ceux qui n'y connaissent rien, la draft, c'est quoi? C'est une sorte de tour préliminaire de recrutement où chaque équipe, toujours pour être assez court, par ordre inverse du classement de l'année précédente, va pouvoir en priorité choisir une recrue. Et puis il y a deux tours comme en NBA ou sept tours comme en NFL. Bon,
Ah
ça
oui,
par
les
contre,
plus
j'y crois.
jeunes, alors.
Voilà. Et ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas parce que la structure du cyclisme ne le permet pas, tout simplement. La structure des ligues américaines, c'est qu'il y a une ligue fermée avec les équipes pro. Et ce sont les seules équipes pro. Et donc, on va chercher dans les universités, finalement, les meilleurs talents. Ici, en dehors du World Tour, vous avez une cinquantaine d'équipes professionnelles, pour ne pas dire plus, derrière, en Pro Tour, en Conti. Fin. Donc, ce n'est pas envisageable. Et puis, vous allez dire à Astana, qui est 18e, ah, ça, toi, choisis en premier, tu vas prendre qui? Oh, je vais aller prendre Arnaud Delis. Non, Arnaud Delis, il est payé comme un pro chez Lotto Destiny. Ah, je vais prendre alors, je vais chercher qui? Je vais chercher Agnes chez Visma Développement. Non, parce que Visma Développement, c'était Visma. Enfin, donc, la structure ne le permet pas. Donc, le côté draft, voilà, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais par contre, avoir un salary cap qui permet effectivement de lisser davantage les forces en présence sur le World Tour, c'est peut-être quelque chose qui pourrait redynamiser un peu le suspense, en tout cas pour ceux qui ont besoin de plus de suspense. Pour les victoires.
Je suis d'accord avec toi pour rééquilibrer les forces en présence. Par contre, ça ne répondra pas à la problématique d'avoir une superpuissance pour contrer à des plus forts. Ça, tu ne sauras jamais. Je veux dire, parce que tout ce que ça va faire, ça va mettre des forts un peu partout, mais donc ce sera quand même du 1 contre 1 ou du 2 contre 2, donc ils seront toujours au-dessus. Moi, la seule solution que je vois, j'espère que ça va lui parvenir, Tadei, si tu nous écoutes, signe chez, je sais pas, chez Destiny, au hasard, équipe prise au hasard, signe chez Destiny, laisse l'Armada UAE se battre contre toi, et là, on aura du suspense. Ou pas.
Ouais, de manière générale, de toute façon, il y a un problème d'ultra-domination dans le cyclisme, mais le fait qu'il y ait des coureurs plus forts que d'autres ne devrait jamais être un problème parce que c'est l'essence même du sport en soi, donc ça sera toujours le cas. Maintenant, vous parlez aussi de duel avorté, de coureurs seuls contre tous. On y reviendra plus en longueur, évidemment, dans un petit mois maintenant, mais est-ce qu'on peut encore une fois, espérer un Tour de France avec beaucoup plus de suspense et peut-être un top 10 beaucoup plus resserré. Moi, j'y crois en tout cas pour le moment.
Alors, top 10 plus resserré, ça c'est sûr. Le suspense, c'est tellement dur, vu qu'on ne sait pas où en sparring de garde. Moi, j'ai du
C'est
mal à
ça.
croire qu'il puisse être au top. Et donc, oui, ça, ouais, je ne sais pas. Parce qu'aussi, on s'était dit que Pogacar serait diminué. Je n'ai même pas l'impression qu'il va être
Non.
diminué, mais c'est dur à dire aussi. Je ne sais pas.
Il suffit qu'il soit légèrement diminué pour qu'un Remco et un Roglic arrivent peut-être à bon niveau pour venir le concurrencer. Et puis derrière, il y aura d'autres gars aussi qui n'étaient pas sur le Giro et qui viendront en top forme. Donc ça peut donner quelque chose d'assez sympa.
Ouais.
Et ben voilà, de toute façon, de manière générale, on aura l'occasion d'en reparler. On va peut-être même, très certainement même se retrouver avant cela, hein. Il y aura des belles courses quand même qui vont arriver, notamment avec le Dauphiné et le Tour de Suisse. Donc, messieurs, j'ai hâte de vous retrouver. Merci d'avoir débriefé ce Giro. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses vu que, comme je l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de le regarder. Donc, on se retrouve très vite et voilà. Donc, profitez bien de cette petite pause et à très bientôt.
Salut, salut, à bientôt.
Ciao,
Salut.
ciao.